s'il était vrai qu'il existe des lois éternelles régissant de manière absolue toutes les choses humaines et qui ne requièrent de chaque être humain qu'une complète obéissance, alors la liberté ne serait qu'une farce. La sagesse d'un seul suffirait. Les contacts humains n'auraient plus d'importance. Seul importerait que soit préservée une activité parfaite, opérant dans le cadre institué par cette sagesse, qui connaît la loi. Ce n'est pas le contenu des idéologies, mais la logique même, selon laquelle les dirigeants totalitaires les utilisent, qui produit ce sol familier et la certitude sans faille de la loi.
C'est un plaisir, Anne-Marie Miéville, quand on regarde tous vos films au Jeu de Paume en ce moment et en même temps aussi tous les films que vous faites partager, les films des autres, et de retrouver votre univers, hein, d'être dans cette question que vous posez de film en film, à la fois la question d'être tout simplement au monde et aussi une attention réelle, constante du monde, hein, qui bouge, de la société, du monde moderne. Donc j'aime bien cette alternance entre l'intime et l'ouvert.
Oui, en même temps, c'est vrai que dans les films que j'ai réalisés jusqu'à maintenant, les questions qui sont posées, elles sont en général assez indépendantes de l'actualité, précisément. Oui, c'est pour moi des questions intemporelles. Je pense qu'on se les posait il y a longtemps et qu'on n'a pas fini de se les poser. Donc à chaque fois, il y a un contexte d'une époque qui est représentée. Mais disons que je ne me suis pas attachée à des faits particuliers et précis. Mais c'est plutôt des questions, on peut dire, plus philosophiques, au sens le plus banal du terme. Enfin, les relations entre les gens, entre les hommes, les femmes, les grands, les petits, les parents, les enfants. Et voilà, ce sont les thèmes de tout le monde.
Oui, il y a souvent ces dialogues philosophiques, comme dans votre dernier film, Nous sommes tous encore ici, et ce jeu de dialogue à l'ancienne, enfin de dialogue grec, dit par des femmes dans des gestes très quotidiens, en train de broder, de coudre, de faire la cuisine, c'est très vivifiant ça.
Oui, mais là, j'y suis pas pour grand-chose, dans la mesure où ces très merveilleux dialogues sont des dialogues de Platon, donc qui remontent à il y a fort longtemps. Dont à relecture et après quelques études comme ça, effectivement, j'ai trouvé que c'était d'une très grande modernité et que les questions posées étaient plus que jamais actuelles, puisque la question était effectivement qu'est-ce que c'est qu'un homme bon, est-ce que c'est un homme intelligent, est-ce que c'est un homme courageux, enfin, des questions comme ça. Et ça faisait longtemps que je me posais la question d'essayer de les donner à partager, de les mettre en scène. Et l'idée m'est apparue possible à partir du moment où j'ai pensé le faire dire par des femmes. Alors bon, il y a certaines féministes qui ont trouvé qu'on ne devait pas mettre des paroles comme ça, tellement d'hommes, écrites par un homme dans la bouche des femmes. Moi, disons que ça ne va pas jusque-là. C'est le sens qui est importé avant tout. Et je trouve que les femmes, là, et le corps des femmes accueillaient très bien cette parole. Et effectivement, dans des gestes très quotidiens, ça donnait une conversation comme il pourrait y en avoir, oui. Pourquoi pas, voilà.
Vous filmez souvent les maisons, les bouquets de fleurs, les fenêtres, l'intime, hein, de la vie.
Oui, en même temps, vous venez de dire les maisons, les fenêtres. Tout le monde a un lieu avec une fenêtre carrée ou rectangulaire. Les gens se mettent des fleurs aussi. C'est des éléments qui sont communs, dans lesquels on fonctionne, on évolue chaque jour. Et en même temps, la fenêtre, c'est pas rien. C'est toute une ouverture au monde. Qu'est-ce qu'on y voit? Qu'est-ce qu'on y peut voir? La lumière rentre et on peut projeter son regard au dehors et voir.
Vous travaillez beaucoup les cadres, hein, j'imagine, chaque séquence est travaillée comme une peinture, hein, parfois.
Ben, en général, c'est préparé, oui, assez précisément. Je fais d'abord ce qu'on appelle un travail de découpage, où chaque partie de dialogue, je l'imagine avec un plan. En général, ce plan-là, j'ai une bonne connaissance du décor avant, alors je peux imaginer les plans comme ça. Et c'est vrai que j'ai fait pas mal de temps de la photographie. et que ça m'a aidé aussi pour oui,
Une
une
précision.
précision, un besoin de rigueur quand même du cadre qui, là aussi, je trouve, se perd quelquefois un petit peu. On a l'impression qu'il y a un bout d'image, mais que ça aurait. Je suis toujours très frappée par les cadres en peinture qui sont à la fois rigoureux et quelquefois décentrés, étranges, mais toujours très rigoureux et jamais par hasard. Et je pense que c'est important aussi cette question.
Et un des leitmotifs de votre cinéma, c'est aussi le couple, hein, le couple, les enfants, les relations au moment du divorce, les querelles dans la vie quotidienne.
Ben, là aussi, on n'a pas fini d'en parler et de s'affronter à ces difficultés. C'est vrai que on n'est en général pas très bien éduqué par rapport à ce que peut représenter un couple qui veut fonder une famille et qui doit passer une vie ensemble. Une vie ensemble, c'est pas effectivement un long baiser interminable, hein. C'est fait de heurts, de difficultés. Chacun change aussi par rapport à son propre cheminement. Il faut que ça s'accorde avec le changement de l'autre. Enfin, tout ça est très délicat, très complexe et voilà, riche d'enseignements aussi.
Les enfants aussi, hein, sont très présents, l'enfance.
Oui, les enfants sont très présents. Et bien, je pense qu'ils ont. On est censé avoir à leur. Enfin, on doit les éduquer, leur apprendre, leur transmettre, mais je pense qu'ils sont aussi source d'enseignement pour nous. Et que c'est une grande chance de pouvoir cohabiter, échanger avec des enfants.
Il y a cette façon de parler de l'enfant dont je crois que c'est Lou n'a pas dit non. Donc quand elle dit je voudrais avoir une conversation intelligente,
C'était un.
la petite hein,
Non,
qui parle comme un livre.
c'était le petit garçon qui
C'était un petit
reprend.
garçon
Oui,
qui posait
au tout
cette
début, il y avait une
question.
petite séquence du protagoniste qu'on retrouve plus tard, jeune homme. Il y avait une petite séquence de son enfance. Et
Adolescent.
effectivement, il vit dans un univers qui était assez dur, avec une mère assez perverse, assez rude. Et à un moment donné, il est justement devant une fenêtre qui s'ouvre sur un lac, des montagnes, et il dit effectivement qu'il voudrait bien aller chez des gens, participer à une conversation intelligente et délicate, je crois, à la hauteur de laquelle il tenterait de se hisser.
Voilà. Et c'est votre dialogue, c'est
C'est
vous qui...
souvent un
Oui.
désir que j'ai, moi, oui,
Oui.
j'aimerais bien, oui, pouvoir aller chez des gens et qu'on m'accepte dans une belle conversation, même si c'est pour me taire, mais voilà.
Ah non, mais non, mais pourquoi tu t'annonces pas autrement? On en a déjà parlé, à chaque fois ça me fait peur. Tu vas me faire exploser le cœur.
On l'avait dit que la sonnette était trop forte.
Oui, mais tu fais éruption en silence et ensuite tu fais le bruit quand tu es déjà là. Mais ça va pas.
Si je te veste depuis le dehors, tu n'entendras pas.
Écoute, il faut qu'on trouve autre chose. Moi, ça me fait trop peur. On a déjà assez peur comme ça. Tu imagines comme ça augure bien de ce qui va se passer maintenant. C'est une fine entrée en matière.
Décidément, tout ce que je fais, c'est toujours à côté.
Ah, voilà, alors. Si on généralise maintenant, écoute, je ne te reproche rien. Enfin, rien de spécial, mais je sais pas. Faut frapper ou changer cet enfoiré de sonnette.
Mais je sais bien que je suis pas bricoleur.
Moi, je le ferai moi-même, c'est pas un problème. Le problème, c'est quelle sonnette choisir. Il n'y a plus de belles sonnettes. Soit elles font grrr, ou alors c'est des espèces de gongs électroniques.
Ah oui, tu te souviens. Ces vieilles sonnettes avec de belles notes. Et elles étaient douces.
Moi, j'aimais bien les boutons contournés de droite à gauche sur la porte.
Elles faisaient un peu sonnette de vélo, celle-là. Voilà encore un truc. Je me demande pourquoi ça devient si abominable.
Ça change.
Ça reste un bouton sur lequel on met le doigt. Mais le son est devenu atroce, agressif. C'est pas le changement qui me gêne. C'est que ça va quand même, presque toujours, dans le sens de la laideur, de la bêtise.
Et dans tout votre trajet, hein, vous avez aussi été
musique,
co-scénariste avec Jean-Luc Godard. Vous avez traversé comme ça, toute une histoire du cinéma. Il y a des familles hein, que vous aimez aussi. Hein.
Mais en même temps, c'est pas l'idée d'une famille que j'applique en choisissant ces films. C'est vraiment dans les années récentes des films que j'ai vus et qui m'ont vraiment profondément touchée. dans lequel j'ai trouvé du cinéma vraiment vivant, existant, porteur encore de plein d'espoir, et en même temps des thèmes traités d'une manière originale, intéressante, encore pure aussi, par rapport à des images qui ne sont pas encore trop contaminées par la télévision, parce que c'est quand même quelque chose aussi. Donc ça, voilà, ça s'est fait comme ça au cœur. Alors effectivement, après, ça fait une famille. Mais disons que c'était pas délibérément, d'une manière rigide, dire je vais prendre un film de Jean-Marie Straub, Daniel Huillet. Parce qu'il y a Jerry Lewis aussi. Voilà.
Et non, je pense au Straub parce qu'il y a parfois aussi cette manière de prendre un texte classique, ou je pense à la correspondance de Rilke et de Louis-Andréa Salomé, et puis d'en faire quelque chose de moderne, de contemporain. Il y a toujours ce va-et-vient entre la poésie, souvent, les grands textes, et la vie quotidienne.
Ah oui, mais eux, alors, ils sont allés, ils ont construit une grande partie de leur œuvre là-dessus, et j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour eux, parce que je trouve qu'ils sont allés très loin, là-dedans, sans absolument aucune concession. Moi, j'ai l'impression que pour d'autres raisons, avec certains aspects de « Nous sommes tous encore ici », d'être arrivés un petit peu à ça, avec en réactualisant, en faisant vivre ce texte de Platon, et puis un peu d'un texte d'Anna Arendt aussi. Je ne sais pas, par la suite, je ne sais pas si je referai la même chose, mais oui, eux, ils ont effectivement opéré ce va-et-vient, je trouve, qui est très enrichissant. Parce que souvent, on cherche du neuf, et il y a tant d'ouvrages anciens qu'on n'a pas lus et qui sont quand même fondamentaux. Je pense qu'on ne refera pas beaucoup mieux.
Il y a Rilke aussi.
Oui, alors Rilke, oui, c'était une grande rencontre. C'est effectivement, j'ai passé plusieurs années à essayer d'approcher cette œuvre. Et bon, j'ai eu envie, dans un des films qui s'appelait « Lou n'a pas dit non », d'en redonner des petits échos bien humbles. Mais oui, ça m'a beaucoup apporté.
C'est peut-être ça aussi qu'on retrouve comme chez Godard, la présence d'un livre ou d'un roman dans tout le film, comme la pièce secrète, mais qui dirige tout, qui dirige le regard.
Mais c'est souvent des pièces qui sont de bien bons compagnons dans l'existence. Quelquefois, la vie fait que des relations se défont, ou on perd, il y a des gens qui disparaissent, on les perd, et c'est vrai que il y a comme ça des ouvrages qui sont, que moi je ressens comme de véritables compagnons, et que je ressens très vivants, même si c'est un livre, ou une peinture, ou de la musique.
Et dans « Nous sommes tous encore ici », la présence de Jean-Luc Godard, c'est assez étonnant que vous ayez réussi à le mettre en scène. Et on sent qu'il est différent, même sa voix est différente de d'habitude. Il y a une métamorphose dans sa voix, comme s'il s'appliquait à vous suivre, à obéir rigoureusement et pudiquement, à faire vraiment votre film à vous.
Oui, je crois que là, il a été très honnête et qu'il a joué franc jeu. C'était pas du tout prévu au départ qu'il s'associe à ce projet comme comédien. Il y a des circonstances qui ont fait comme ça qu'au pied levé, je lui ai demandé de bien vouloir reprendre le rôle, ce qu'il a fait. Effectivement, il s'est attaché, mais on s'était mis d'accord ensemble que s'il venait sur ce petit tournage, il venait comme Jean-Luc, comédien débutant, et non pas comme le cinéaste qu'il est, reconnu ou impressionnant pour certains. Et là, il a joué le jeu. En même temps, ce qui lui a permis de le faire aussi, c'est que les textes que je lui ai donnés à dire, à faire exister, n'étaient pas très lointains de lui, de ses convictions profondes et de sa sensibilité. Je pense que sinon, il n'aurait pas. Je ne pense pas qu'il soit un acteur de composition. Donc, à des moments, il a pu jouer quelque chose qui était. Enfin, dire quelque chose qui était proche de lui.
Et des petits détails comme le bonnet ou couper le vin, est-ce que c'est inventé ou c'est très attachant ça Est-ce que c'est lui aussi?
Oh, c'est pas spécialement lui, le bonnet, tout le monde en porte. Je sais pas pourquoi ça faisait tellement rire les gens de voir Jean-Luc avec un bonnet, mais quand on se promène dans la rue, on voit plein de gens. Et peut-être moins à Paris, les gens mettent moins de bonnet.
C'est plutôt l'air qu'il a en portant ce bonnet qui est drôle.
Mais non, on n'invente pas grand-chose. Les bonnets, c'est pas moi qui les ai inventés, ils existent. Je vois des gens les porter. Souvent, effectivement, je trouve que ça ajoute quelque chose d'un peu comique, d'un peu enfantin, d'un peu vulnérable, que je trouve joli. L'histoire du vin, je l'ai vu faire plusieurs fois par différentes personnes. Bon, ben voilà.
Mais c'est souvent à partir de petits détails comme ça et chacun se retrouve hein, quand il y a l'idée de la fête, de sortir, de faire un voyage et puis qu'un petit rien gâche tout. Hein, c'est très beau ce voyage en Italie qu'ils font et qui est gâché. Pourquoi? On ne sait pas. Mais c'est
oh,
la
il n'est
vie.
Pas vraiment gâché, non. Disons qu'il y a une... Non, il n'est pas vraiment gâché. Je ne sais pas si c'est un couple qui est très fait pour la fête, là, dans ce film. Je ne dirais pas que c'est gâché. Il y a un moment d'affrontement, comme il peut y en avoir à la maison. Ce n'est pas parce qu'on va dans un hôtel que tout doit être rose et formidable. On transporte avec soi ses tensions et ses manières de faire qui, quelquefois, agacent l'autre, surtout si on les voit faire depuis de nombreuses années. Puis l'histoire du vin, bon, mais effectivement, mettre de l'eau dans son vin, c'est plein de sens aussi. Enfin, c'est un peu mélanger, mitiger, peut-être pas affronter les choses vraiment, et puis pas vouloir goûter ce jus de la treille qui est vraiment bien agréable.
Oui, on sent qu'elle est entière, hein, toujours. Oui. Elle a des idées de justice,
Elle est un peu justicière, oui. Elle est un petit peu justicière, mais bon, on lui pardonne. Ça fait avancer le schmilblick aussi, parce qu'elle pose des questions et que ça fait échanger, que ça fait parler. Voilà.
Malheureusement, c'est non. C'est trop petit public, il y a trop de dialogues, ce n'est pas assez vivant. On ne voit pas le fil rouge entre les différentes parties et on ne voit pas l'intérêt de citer aussi abondamment ces philosophes.
Ah, malheureusement, nous sommes en pleine réorganisation budgétaire actuellement et en regard de la conjoncture, la gestion est désormais nécessaire. La poésie, c'est fini.